Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans La Grande Librairie. Est-ce que vous le sentez, vous aussi, ce grand besoin de campagne? Cette envie, par les temps qui courent, de se reconnecter à la nature, de quitter la ville? Cette envie de retour à la terre? Ah, tiens, qu'en disent les écrivains, les romanciers, les romancières, qui ont fait de ce désir le cœur de leur fiction? J'accueille ce soir quatre écrivains dont les livres m'ont alors littéralement enchanté et transporté. Voici Marie-Hélène Lafon, Mathias Sénard, Laurent Mauvignier et Serge Joncourt. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très heureux de vous rassembler ce soir, non seulement parce que vos livres sont formidables, mais j'ai l'impression que ces livres sont, soit jumeaux, soit cousins, pas très éloignés tout de même. Soit cousin germain, on va voir, on va tirer des passerelles entre vos ouvrages. On n'entend plus beaucoup de nos jours, hein, vous l'avez remarqué, vous qui nous suivez, la parole de la terre, surtout en littérature, avec sa violence, avec ses colères, avec ses secrets, mais aussi avec ses grandeurs. Mathias Sénard, prix Goncourt il y a 5 ans, vous imaginez, vous, la découverte des réalités de la campagne des environs de Niort dans les Deux-Sèvres, par un jeune anthropologue parisien bardé de certitudes. Marie-Hélène Lafon, vous racontez sur un siècle l'histoire d'un fils né de père inconnu dans un petit village du Cantal dans lequel vous nous entraînerez tout à l'heure. Serge Joncourt, vous brossez le portrait d'un jeune agriculteur qui se sacrifie pour reprendre la ferme familiale. Ça se passe entre 1976 et 1999, c'est-à-dire 2 décennies au cours desquelles la nature commence à se rebeller et la mondialisation a massacré les campagnes. Et puis enfin, Laurent Mauvignier, alors vous nous offrez un thriller absolument palpitant autour de tous les thèmes qui sont au cœur de la vie rurale et puis aussi de ce qu'on appelle un peu pompeusement les enjeux de la ruralité, mais dont on va parler avec d'autres mots ce soir, les mots des romanciers, les secrets, la nature, la solitude, la violence, la beauté. Oui, il y a tout ça. Une question pour commencer, pour vous. Romancière, romancier, que vous évoque le mot campagne? C'est une question que je pique à l'un de vos personnages, Mathias Sénard. Le mot campagne, ce mot-là, qu'évoque-t-il immédiatement pour vous?
Napoléon. Non, Russie.
Ah oui. Et en même temps, voilà, c'est du Hénard. Je vous préviens, ça sera comme ça pendant 1h30. Et son livre, c'est comme ça pendant 500 pages. Pensez une chose, non, c'est à côté, décalé.
Oui, non, la campagne, évidemment, on pense tout de suite... Ouais, pour moi, je sais pas, c'est la campagne de Russie qui me vient d'abord.
Donc c'est la campagne guerrière, c'est pas du tout.
Non, parce que bon, la campagne, forcément.
C'est pas la province.
Non, voilà, c'est la campagne, c'est quelque chose qui est assez naturel, donc j'y suis tout le temps, donc je la vois, oui, des arbres, des.
Comment ça, vous y êtes tout le temps? Vous vivez vraiment à la campagne?
De plus en plus souvent, oui. Ouais.
Je crois que vous viviez entre Barcelone.
Entre Barcelone et la campagne, effectivement.
Ouais. Serge Joncourt, le mot campagne est-il pour vous à connotation guerrière comme Mathias Sénard ou est-ce que ça évoque tout à fait autre chose?
Non, ça, oui, non, pas du tout guerrière. Ce que ça m'évoque spontanément comme ça, c'est le regard différent qu'on a sur la campagne depuis quelques mois. Allez savoir pourquoi. J'ai le sentiment qu'à un moment de cette année, entre mars, avril, mai, on a tous rêvé d'être à la campagne, de vivre à la campagne. Et d'une certaine façon, la campagne, c'est un territoire à redécouvrir. Il semblerait que, on me dit ça, les gens quittent les villes, les appartements à Paris se vident, il y a une sorte d'exode rural, exode urbain.
Ouais. Donc on redécouvre la campagne. On va dire clairement les choses, parce que j'ai posé la question à Mathias Sénard. Où vivez-vous, vous, Serge Joncourt, à Paris ou à la campagne?
Dans le train. Dans les gars. Oui,
dans le train.
Oui, dans les trains. Et puis j'ai 2 pôles familiaux, on va dire, la Nièvre et le Lot, qui sont des territoires non desservis par le TGV, ce qui fait que d'une certaine façon, quand j'y vais l'été, j'y vais l'hiver, on va dire 3 mois par an. Et là, c'est une sorte de changement radical, parce qu'il faut bien se dire ça, quand il n'y a pas de gare TGV, vous êtes d'un seul coup, quand je descends à Cahors, je suis d'un seul coup à 6 heures de Paris, hein, plus 1 heure de voiture. C'est-à-dire que je suis Alain Mabankou, que j'aime beaucoup, mais moins de temps pour aller à New York, voire même à Los Angeles, parce que bien souvent, ce train-là, c'est pour un sanglier ou un chevreuil. Donc c'est une sorte de distance comme ça. Et le pire, c'est que il y a 10 ans, on mettait moins de temps pour aller à Limoges ou pour aller à Cahors. Ça se distend comme ça, oui.
Alors ça, on va en parler, c'est au cœur de votre roman, toutes ces mutations qui sont parfois extraordinairement surprenantes. Marie-Hélène Lafont, vous qui accordez énormément d'importance dans vos livres, dans vos romans, au choix des mots, ce mot « campagne », tiens, j'en prends un autre aussi, « village », « campagne » et « village », deux mots, qu'évoquent-ils tous deux pour vous ?
Alors « campagne », quand vous avez lancé le mot tout à l'heure, j'ai immédiatement pensé « campagne militaire », campagne électorale, pain de campagne.
Ah, campagne. Ah oui, pain de campagne.
Et ensuite, j'ai pensé, en ce qui me concerne, pays premier. Je n'y vis pas, je n'y vis plus. Ça fait 40 ans que je ne vis plus dans le pays premier. Et j'y passe 10 semaines par an. Mais ce sont 10 semaines qui sont des semaines singulières dans ma vie, puisque ce sont des semaines de vacances, entre guillemets. Donc c'est un rythme singulier qui fait de moi Enfin, je suis une fosse urbaine, puisque le pays premier, pour moi, n'est pas la ville.
C'est
Le pays premier, ben, c'est Pays perdu, Cantal, milieu de rien. Milieu de rien.
Serge Joncourt dit campagne, mais en réalité, c'est un mot que vous ne prononcez pas. Non, vous préférez le mot pays.
Oui, je préfère pays. Je préfère pays, peut-être parce que c'est plus chantant. Et parce que campagne, pour moi, c'est plat.
Ah, oui. Le mot est plat ou ce que ça désigne est plat ?
Oui, c'est... Et moi, je préfère montagne à campagne, parce que je viens d'une campagne perchée. Voilà, donc c'est pour ça que le mot campagne, vous voyez, je l'habite un peu difficilement. Quant à village, alors là, village, c'est pour moi, définitivement, hein, creusé à histoire. Mine d'histoire, comme on parle d'une mine d'or. Voilà, village. Voilà. Dans les villages, les histoires sont tapies, au creux des maisons, au coin de, au prochain tournant, etc. Voilà.
Laurent Mauvigné, ces deux mots, campagne et village, qu'évoquent-ils chez vous ?
Alors moi, campagne, premier truc, ça a été pareil, campagne électorale, mais dans le côté partir en campagne. Parce que depuis que je suis gamin, quand j'ai des campagnes électorales, justement, il y a toujours on les entend partir en campagne. Et là, on les sent tellement, quand vous voyez ça à la télévision, vous les voyez tellement citadins partir en campagne. On a l'impression qu'ils vont vraiment au bout du monde. C'est un effort quand même, c'est un boulot, quoi. Et on sent. Et moi, c'est vrai que je l'associe complètement à ça, parce que moi, quand j'étais enfant, je vivais à la campagne, et une campagne relativement plate pour le coup, mais je n'avais pas du tout l'impression de vivre à la campagne. J'avais l'impression de vivre chez moi. Vous voyez ? C'est-à-dire que le mot même de campagne, pour moi, est un mot de citadin qui regarde ce lieu. C'est-à-dire, moi, c'est un mot que je n'utilise jamais. Je ne vais pas à la campagne. Ça sent la résidence secondaire, en fait, la campagne.
Oui.
C'est complètement abstrait comme idée.
La maison de campagne.
Ouais.
Ou la partie de campagne. Maison, voilà.
La partie de campagne.
Voilà. Ah, la partie, ouais, campagne.
Partie de campagne.
Comment expliquez-vous, les uns les autres, ce besoin de campagne, de nature, que les gens semblent ressentir de manière peut-être tout à fait légitime depuis le confinement, ce désir de retour à la terre qui ronge les urbains? C'est pas nouveau, souvenez-vous, tiens,
oui,
cette formidable bande dessinée signée Larsenet, Manu Larsenet, ouais, et Jean-Yves Ferry. C'était il y a déjà une quinzaine d'années.
Et c'est, oui, c'est un mouvement valable. De fond. C'est... Je pense que le confinement, par exemple, a accéléré ou quelque chose, mais qui est en cours depuis quand même longtemps. Moi, je veux dire, je viens à Paris quand même très régulièrement, et j'ai un tas d'amis qui rêvent tous de se barrer, hein, faut quand même être clair, et depuis des années. Et certains ont, d'une certaine manière, saisi le confinement pour le faire.
Je lis dans le livre de Mathias Hénard, page 382, ceci. Chaque pierre cache une anecdote horrible, une jalousie, un ressentiment. Il y a plus d'histoire à la campagne qu'il n'y en a dans les villes ?
Peut-être pas plus, mais on a une manière différente de les considérer. On a peut-être plus le temps de les entendre ou de les flairer. On les espère peut-être davantage, on les rumine peut-être davantage. On les glose peut-être davantage, ouais, qu'on ne le fait dans le rythme urbain.
Il y a aussi, pardon, qu'à la campagne, j'ose le mot, il y a une forme de permanence dans les sites, dans les lieux, dans les maisons. Ouais. D'une certaine façon, en ville, on va plus facilement déménager, passer d'un immeuble à l'autre, d'un quartier à l'autre, alors qu'à la campagne, on insiste.
Ouais.
Moi, ce qui me frappe justement dans l'idée du village, des histoires, des récits qui se fabriquent dans un village, c'est que justement, ce sont les gens qu'on connaît ou qu'on croit connaître, ce qu'on voit, hein, dont la répétition de la fréquentation fabrique justement une possible histoire. Alors qu'en ville, c'est l'inverse. Ce qui fabrique le récit en ville, c'est l'inconnu, c'est fenêtre sur cour, quelqu'un qu'on découvre tout d'un coup qu'on ne connaît pas. Alors que dans la proximité des petites villes ou des villages, c'est justement cette connaissance.
C'est le fameux « tout le monde se connaît ».
Tout le monde se connaît qui fabrique...
Méfiez-vous, parce que dans le roman de Laurent Mévigné, on croit connaître des protagonistes, et alors on découvre
Tout le monde croit tout savoir sur tout le monde, et tout le monde invente ce qu'il ne sait pas. Mais c'est la porte ouverte à tout.
Rentrons dans les histoires, dans vos histoires. Elles sont formidables et surtout remarquablement racontées, et de façon très différente. Voilà, vous avez devant vous... Quatre écrivains qui ont choisi une façon de faire de la littérature qui est saisissante et différente. Alors, c'est un véritable tour de France que je vous propose. Le Cantal avec Marie-Hélène Lafon, le Lot avec Serge Joncourt, la région de Touraine pour Laurent Mauvigné, et puis les Deux-Sèvres et le Marais Poitevin pour Mathias Sénard. On va commencer, si vous voulez bien, avec vous, Mathias Sénard, et ce jubilatoire petit manuel d'ethnologie rurale que vous nous offrez. Que signifie vivre à la campagne aujourd'hui, si on garde le mot campagne? Eh bien, c'est pour répondre à cette question, qui est le sujet de sa thèse, qu'un jeune ethnographe parisien s'installe pour un an à la Pierre Saint-Christophe, 649 habitants non loin de Niort, dans les Deux-Sèvres. Mais évidemment, rien ne se passera comme prévu, au point que la vie de notre héros se déréglera doucement au contact des habitants de ce charmant coin de France. Cela donne un roman drôle, décalé, bourré d'anecdotes et où l'érudition joyeuse se mêle à la paillardise et à l'humour, faut bien le dire. Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs vient de paraître aux éditions Actes Sud. C'est un roman placé sous le signe de Rabelais, et dans lequel il est aussi question de la réincarnation et de la migration des âmes. Tiens donc, présentez-nous, s'il vous plaît, Mathias Hénard, cet ethnographe un peu prétentieux et légèrement couillon, comme on dit chez nous.
Oui, il s'appelle David Mazon, il a autour d'une trentaine d'années, et il commence une thèse donc en ethnologie, et il s'installe dans ce village de la Pierre Saint-Christophe, dans les Deux-Sèvres. Alors, il est plein d'allants, il a beaucoup d'envie de bien faire. Et c'est pas qu'il n'est pas très malin, c'est qu'il est un peu démesuré. Il se voit déjà, avant même d'avoir accompli le travail, il voit déjà la thèse terminée, le poste à l'université. Il se rêve en Lévi-Strauss d'aujourd'hui ou en Malinowski, ses grands héros. Alors il a un problème, c'est qu'il ne veut pas choisir les expéditions lointaines parce qu'il a horreur des aléas climatiques, des bêtes et tout ça. Il aime bien son confort. Et donc il s'est dit, non, le mieux, c'est quand même de rester en France. Et donc il a choisi ce terrain.
C'est-à-dire que vous comparez quand même, et ça, vous êtes en train de le faire là en ce moment, la population des Deux-Sèvres avec les Givarots, les Nambiquois.
C'est ce qu'il fait, lui, tous les jours. Oui, c'est l'observation, finalement, le processus par lequel on parvient à l'écriture ethnographique est à peu près le même. Enfin, c'est ce que croit David Mazon, en tout cas. Et puis, c'est quelqu'un qui va être petit à petit mangé par son objet d'étude. Et ça, moi, c'est toujours des récits qui me fascinent, c'est de comprendre comment, enfin d'imaginer justement ces observateurs qui sont tellement dans l'observation participative, qui participent tellement à leur milieu, qui finissent complètement avalés par ce qui l'entoure. C'est-à-dire qu'il va devenir lui-même un des habitants de ce village qu'il observe. Ça, c'est le grand mouvement du livre. C'est
alors,
la transformation de David Mazon en personnage rural.
C'est pas gagné d'avance parce qu'il est quand même pas fichu de faire une soupe quand on lui offre un cajot de légumes. On leur apprend quoi, dites-moi, en doctorat de sciences humaines?
Et c'est la question qui se pose, et il se rend compte qu'il ne sait rien faire. Et puis, il va un peu découvrir cette campagne, son nouveau terrain, avec beaucoup d'envie, de désir d'aller à la rencontre de ses habitants. Et il va habiter petit à petit le village. Et c'est cet appartement d'abord qu'il loue dans une ferme, qu'il appelle évidemment la pensée sauvage.
Voilà, hommage à Lévi-Strauss, évidemment, et à son grand livre. Il raconte plutôt bien les choses, il sait parler, il a de l'éducation, peut-être un petit peu trop. A-t-il des préjugés ? Quand il arrive en se disant « je vais interroger les uns les autres », on s'aperçoit qu'il n'écoute pas les réponses, votre ethnographe, votre ethnologue.
Oui, oui, assez peu. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est surtout... Enfin, ce qu'on lit, pourquoi ? Parce que ce qu'on lit, c'est son journal de terrain. Donc, on ne lit pas ses écrits scientifiques, mais... Au jour le jour, les quelques observations qu'il note pour lui-même, hein, pour ensuite fabriquer un matériau plus scientifique. Donc c'est ce journal, ce matériau brut conçu au jour le jour. Effectivement, il n'est pas extraordinairement clairvoyant, hein, on peut bien le dire dans ses observations.
Vous le trouvez drôle et vous le trouvez exotique, son voyage, Laurent Mauvigné,
moi, ça,
à l'ethnologue de Mathias
Sénard. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais je trouve qu'il a un côté... ce côté adolescent, c'est un adolescent, enfin, parce qu'il a 30 ans, mais aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un jeune adulte, mais dans son comportement, il a un côté, c'est vraiment l'ado qui retourne chez sa mère à la campagne, effectivement, et puis il ne sait rien faire. Alors, c'est vrai qu'il ne sait strictement rien faire. Et donc, moi, je le trouve très... Je le trouve touchant en même temps, ouais. Il est drôle, mais il est touchant sur plein d'aspects, ouais. Parce qu'en même temps, il est plein de bonne volonté.
Il a froid, il découvre qu'il y a des insectes, des reptiles, voilà, l'isolement, l'ennui, il n'y avait pas pensé. Il découvre également que il va peut-être falloir trouver un moyen de locomotion, parce que c'est quand même perdu à une vingtaine de kilomètres de Niort.
Il sait se faire adopter. Hein. La logeuse et son mari le prennent sous son aile, et le maire.
Ah.
Le maire. Eh oui. Alors ça...
Alors on va parler du maire, parce que c'est presque le personnage pivot, le maire. Il est improbable, celui-là. Non pas parce qu'il est maire, mais par sa profession. Il exerce la joyeuse profession de croque-mort.
Effectivement. Vous savez, il y en a beaucoup dans les petites villes, c'est les villages, c'est tout à fait... Je pense que c'est le plus vieux métier du monde, hein. Très certainement, bien avant l'autre, hein. C'est celui d'enterreur. Hein. Et donc ce maire, oui, est aussi le croque-mort du village. Et c'est ce qui donne un peu le pas à ce qui se poursuit, cette partie centrale du livre, qui est le banquet annuel de la confrérie.
Alors voilà, parce qu'il n'est pas seulement le croque-mort du village et le maire du village, il est aussi celui qui, une fois par an, à Pâques, alors évidemment, dans ce coin, il vaut mieux éviter de trépasser à Pâques, sinon on attend un tout petit peu, quoi, le retour des fossoyeurs. Car chaque année, à Pâques, pendant quelques jours, tout le monde se retrouve dans une logique très rabelaisienne, au banquet annuel de cette confrérie des fossoyeurs. Il en est l'un des piliers, l'un des organisateurs. Qu'est-ce que c'est que cette idée ?
Là-dessus, j'ai rien inventé. En fait, cette confrérie des fossoyeurs et le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs existent, mais dans un tout autre endroit, puisque elle est dépeinte à Prague. À côté d'une des synagogues de Prague se trouve l'endroit où se retrouvaient justement les fossoyeurs, la maison des enterreurs, à côté du cimetière. Et là, on trouve plusieurs tableaux qui décrivent justement le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs et qui explique que pour se consoler de leur triste métier, chaque année, les fossoyeurs donnaient un banquet. Et cette idée m'a semblé absolument magique de me dire, mais bien sûr, c'est sûr, il faut que les fossoyeurs aient ce moment pour se consoler d'avoir la mort au quotidien. Et donc, je suis allé un peu plus loin que ça et je m'imaginais qu'il y a une trêve, que la mort, pour honorer cette confrérie très ancienne, fait une trêve, un pacte avec eux, et que pendant 3 jours, personne ne meurt. Voilà.
Alors, il y a une chose qui est très, très, très forte dans votre livre, c'est que vous en profitez pour convoquer également tous les personnages historiques oubliés de cette région. Alors, c'est la région qui est un petit peu au nord-ouest de Niort, qui va jusqu'au Marais Poitevin, et où les deux grands hommes en littérature du Marais Poitevin, c'est Pantagruel et Gargantua. Rabelais, car l'abbaye de Thélem se situe à quelques encablures, à quelques godets, dirais-je,
de la village. Pierre... Oui, oui, Saint-Martin ou Saint-Christophe.
Ouais.
Effectivement, c'est l'endroit où les fossoyeurs tiennent leur banquet, dans l'abbaye de Maïsset, dont on pense qu'elle donna à Rabelais l'idée de l'abbaye de Thélem. Et Rabelais y a été novice après son passage à Fontenay-le-Comte. Et c'est cette présence, bien sûr, qui, moi, me fait énormément plaisir. Enfin, Il faut des compagnons quand on fait un livre et quand on arpente une région. Et Rabelais, son territoire, c'est vraiment entre la Loire et la Gironde, hein, le territoire de ses romans, le territoire de Gargantua. On sait que Rabelais est né à côté de Chinon, à la Devinière. Mais il a passé pas mal de temps donc, en Vendée, à cet endroit du Marais Poitevin qui s'appelle Maizet, où se situe le banquet annuel de la confrérie.
Ça, c'est le premier des grands François, Rabelais. Mais enfin, juste avant, il y en avait un autre. C'est François Villon. Alors, vous imaginez un Villon qui n'aurait pas disparu, on ne sait où, à la fin de sa vie, mais qui aurait...
C'est pas
aurait,
moi, ça. C'est Rabelais
vécu. Ouais.
Rabelais raconte, dans le Quart-Livre, que on perd la trace de François Villon, mais qu'en fait, François Villon s'installe à Saint-Mexant, donc à quelques kilomètres à l'est de Niort, et il raconte les aventures de François Villon à cet endroit-là. Donc bien sûr, pour moi, qui voulait aussi retracer un peu une histoire de la langue française, ou en tout cas de la littérature française, à partir de ce village et de cette région autour de Niort, entre la Vendée et les Deux-Sèvres, et la Vienne, bien sûr, c'était magnifique hein, que de voir que tous ces gens s'y sont... pour ainsi dire, donner rendez-vous.
Ce que vous cherchez, c'est faire rire le lecteur ou c'est aussi lui faire prendre conscience de ce qu'est aujourd'hui peut-être une fracture entre le monde rural et le monde urbain ?
C'est par le rire, essayer de se poser des questions. Le rire, finalement, nous interroge. On rit et on se dit, mais pourquoi est-ce que je ris, finalement ? Qu'est-ce qui me fait rire là-dedans ? Et c'est le décalage, hein, bien sûr, qui provoque le rire ou le sourire, hein, qui nous fait aussi réaliser énormément de choses. Mmh. On est tous un peu... David Mazon, on est tous un peu des ethnologues perdus à un moment de notre vie. Hein. On ne sait plus exactement.
Serge Joncourt, vous vous sentez ethnologue perdu, vous ?
Oui, oui, tout à fait. Et j'ai lu votre roman. Moi, j'ai essayé de faire un roman un peu similaire. Ça s'appelait L'écrivain national. C'était un écrivain perdu dans un village comme ça et qui se sentait devenir un peu Lévi-Strauss, enfin, totalement en même temps dépassé, essayant de comprendre. Mais là où vous avez été plus fort, c'est que j'ai ri aux éclats. La scène de chasse, ça, c'est vraiment, c'est très fort, parce que rire aux éclats en lisant un texte, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé, quand même. En même temps, il est pathétique, et en même temps, il est sincère, et on sent tout un décalage, là. Alors, on parlait ville-campagne, encore une fois, pardon pour le terme, mais... Et en même temps, ces campagnes-là, bien qu'elles soient plates, on peut considérer qu'elles sont belles aussi. Enfin, pardon, je voulais le caser à un moment ou à un autre.
Oui, leur platitude n'est pas...
N'est pas rédhibitoire.
Non.
Oui. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette cavalcade-là, c'est la question du désir. Ah. Voilà. Le désir de mots, le désir de chair, le désir de vie, le désir de viande. Et ça galope dans tout le livre, d'une manière extrêmement joyeuse et jubilatoire. Y compris dans la scène, en effet, de chasse, mais dans On sent bien que cet homme-là va être déstabilisé aussi dans ses amours. On le voit venir. On ne sait pas bien comment par où ça va se glisser et ça nous prend par derrière quand on ne s'y attend pas. Donc, du point de vue narratif, c'est extrêmement jouissif. Hein.
Il n'y a pas que la campagne que votre personnage va découvrir. Il y a aussi, Marie-Hélène le dit, les corps. Son corps, le corps de l'autre également. Est-ce que vous nous liriez, tiens, comme ça, le début de la page 382, ça donne une idée un peu du ton à la fois paillard, érudit, jouissif et particulièrement drôle de ce roman, Mathias Hénard.
Pardon, mais je suis certain qu'à la campagne, on baise mieux qu'en ville. On est plus libre. On est inspiré par l'orgie continuelle de la nature, la débauche de reproduction, les insectes, les poules, les lapins, les chevreuils, les taillis ou les plantes grimpantes. Ces milliards de copulations constantes vous envahissent. En ville, au contraire, on souffre d'une sexualité de plantes grasses ou de voitures de pompiers. À Paris, soit on a le coït haussmannien, soit on copule en klaxonnant comme un chauffeur de Uber. J'ai soumis cette hypothèse à Lucie. Elle m'a dit que c'était une idée débile de Parisien avant de me sauter dessus pour rire. N'empêche.
Ben voilà.
Voilà.
Mais il y a une grande perdante dans le livre, je trouve, c'est la mort. Parce que la mort, elle revient, elle est un des thèmes vraiment importants du livre. Mais comme dès qu'on meurt, on se transforme en autre chose, la mort perd tout le temps. Et ce mouvement de vie... Et...
Alors la réincarnation que Mathias Sénard met au cœur de ce roman, vous la voyez, vous, comme la victoire de la vie?
Ah bah complètement, pour moi ça va complètement avec
la mort a perdu.
Ah bah pour moi c'est un livre qui parle de ça.
La mort y perd son latin, oui.
Pourquoi, Mathias Sénard, cette fixation sur la réincarnation, plus précisément sur la migration des âmes?
Alors la réincarnation d'abord parce que c'est un processus narratif qui lie des récits entre eux, hein. C'est-à-dire que tout simplement, qu'est-ce qu'elle est, cette continuité qui va au-delà de notre corps dans la vie suivante, c'est tout simplement un récit qui continue.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en fait vous n'y croyez absolument pas, mais que ça, c'est un artifice pour le romancier que vous
êtes? C'est pas un artifice, c'est objectivement parlant, si la réincarnation existe, c'est cela, c'est rien d'autre que on appelle ça une âme, mais en fait c'est une énergie ou un récit qui se poursuit d'un moment à un autre.
Vous y croyez ?
Je ne sais pas. Disons que, en tout cas, c'est parmi les visions du monde, peut-être la philosophie bouddhique est peut-être celle dont la vision du monde me paraît la plus acceptable, peut-être, oui.
Chaque personnage, dans le livre, chaque personnage est la réincarnation, alors soit d'un personnage, soit d'un animal. Le cheval de Clovis à la bataille. Vous êtes la réincarnation de quoi, d'après vous, Mathias Sénard?
Alors, on a une infinité de réincarnations, si on en croit les bouddhistes. Tout ça, le samsara n'est qu'une grande illusion, ce monde dans lequel nous vivons. Et nous nous sommes réincarnés tous, déjà, une infinité de fois. Nous avons des réincarnations qui sont devant nous, derrière nous. Donc, ça n'a aucun sens de dire qu'est-ce que j'ai été avant et qu'est-ce que je serai après. Bien sûr, oui, j'ai été sans doute, comme vous tous, un chevreuil, un animal, ou même le cheval de Clovis, ou la punaise qui pique Napoléon.
Ça, c'est un moment extraordinaire.
Donc, on est tous tout à la fois, et on est tous liés justement par ce grand récit qui nous rassemble tous.
Mais ça, du point de vue narratif, ça fait envie. Hein. Du point de vue narratif, ça rebat les cartes d'une manière extraordinairement jouissive. C'est très jubilatoire, ça. C'est tous ces moments comme ça où vous déployez l'éventail des vies passées et des vies futures.
J'avoue que j'étais pas mécontent quand j'ai trouvé ce système.
Je comprends.
On le voit pas venir, oui, c'est ça.
Parce que dans les Deux-Sèvres, on s'attend pas forcément à tomber sur un truc bouddhique comme ça. Et c'est formidable, ça.
Et on le voit pas venir. Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, c'est aux éditions Actes Sud, sous la signature donc de Mathias Sénard. Livre très différent de ce que vous avez pu écrire précédemment. Fait toujours très plaisir quand un écrivain se livre comme ça, se jette dans l'inconnu et quand on y prend autant de plaisir. Voilà. Alors, on va passer de la campagne au pays, Marie-Hélène Lafont. J'emploie ce mot évidemment à dessein, mais les questions qui s'y posent peut-être se posent avec moins d'acuité, comme vous le disiez, en ville. Ces questions sont les suivantes. Peut-on vivre avec les fantômes ? Avec les silences, avec les non-dits. Et puis, si oui, quelle vie mène-t-on ? Eh bien, ce sont ces questions qui sont merveilleusement formulées, bien mieux que ça, dans ce très beau roman intitulé « Histoire du fils », publié aux éditions Buchet-Chastel. Je dois dire que ça fait longtemps que je vous lis, Marie-Hélène Lafont, et je crois que ce livre-là, vous montez d'un cran encore. Il se passe quelque chose dans le ton, dans le style, dans l'économie de mots, dans les ellipses narratives que vous pratiquez, qui m'a totalement séduit et bouleversé. Le fils, pour le dire brièvement, s'appelle André, 20 ans en 1940, héros de la Résistance. Mais il a grandi avec un père inconnu et une mère à double fond. Un père fantôme qu'il n'a jamais vu, et puis une mère lointaine, une mère intermittente. Le jour où il découvre l'identité de son père, cet inconnu, il se pose cette question toute simple. Faut-il chercher à remonter sa piste et à le débusquer ? Pour quel résultat ? Voilà. Et tout cela se déroule entre Aurillac, Paris, et puis un petit village perdu dans le Cantal où tout s'est joué aux premières années du XXe siècle. J'aimerais qu'on commence par poser le décor. Chanterelle, c'est un beau nom. Chanterelle dans le Cantal et Aurillac, la grande ville. Sauf que entre les deux, écrivez-vous, il y a un monde. Lequel ?
Entre les deux, il y a un monde, oui. Il y a le pays d'en haut et il y a le pays d'en bas. Et le pays d'en bas toise le pays d'en haut. Et le personnage que j'appelle Paul, qui descend du pays d'en haut pour aller accomplir le programme d'ascension sociale qui lui est fixé par sa famille, en passant par le lycée d'Aurillac, comprend très vite que quand on vient d'où il vient, il faut porter haut l'étendard, il faut serrer les dents, et il a une vision du monde qui est un peu guerrière et radicale. Il part en campagne, justement, il part en campagne. Et on a le sentiment que son attachement, l'attachement très fort qu'il a à ce pays de chanterelles, d'où il est issu et dont il veut porter haut les couleurs et l'étendard, cet attachement le nourrit et en même temps le leste, en fait un homme qui va devenir un redoutable carnassier. Quand on le...
Avec les femmes, d'abord.
Oui,
de manière arriviste. Générale. Est-ce qu'on peut dire qu'il est arriviste?
Oui.
Que son ambition a été plus loin que l'ambition? Il va finalement abandonner et le pays du Haut, Chanterelle, et puis Aurillac aussi, pour monter à Paris, et ne plus prêter attention du tout à ses origines?
Il va remplir le programme familial. C'est un programme d'ascension sociale, c'est très sociologique. On avait des grands-parents paysans, on a un père qui s'embourgeoise un petit peu puisqu'il devient... propriétaire d'un hôtel-restaurant et maire de son village. Et la troisième génération doit faire son droit et faire sa médecine. Donc, ça n'est pas tellement un itinéraire choisi. Mais il embrasse l'ambition, qui est l'ambition d'une lignée qu'il va représenter. Et il ne trahit pas le pays premier. Il le garde en lui. Il y retournera régulièrement. Mais il doit vraiment, c'est ça, porter les couleurs d'un monde et d'une lignée dont il est issu. Ça n'est pas véritablement choisi. C'est assumé, mais ça n'est pas véritablement choisi.
Vous avez intitulé votre livre « Histoire du fils ». Vous voyez, j'en ai parlé aux téléspectateurs en racontant l'histoire du fils, et vous embrayez immédiatement sur l'histoire du père. C'est de la littérature, ça ?
Le père est aussi un fils. Et oui, le père est aussi un fils. Et c'est dans cette stratification, justement, des lignées, que c'est là-dedans que le livre s'inscrit. 100 ans. 100 ans de transmission de... Voilà, de 100 ans où on passe des pères aux fils et des fils aux pères sans savoir au juste exactement ce que l'on va assumer de tout ça, de cette filiation.
Est-ce que ça veut dire, Marie-Hélène Lafont, que ce qui nous empêche, nous aujourd'hui, peut-être en 2008 ou en 2020, peut remonter à un secret qui date... Vous vous rendez compte, 1908, on est avant la Première Guerre mondiale. Ça semble si loin, ça semble surtout si intouchable pour nous, ce secret des origines. Vous appelez ça à un moment le berceau tiède.
Oui, ben je crois profondément, et on le constate constamment dans le tissu des vies qui sont les nôtres, je crois profondément que nous sommes traversés par des moments, des éclats douloureux, joyeux qui nous dépassent. Et dont souvent nous n'avons perçu que les échos, voire même qui ont soigneusement été tus. Soigneusement. Je crois que toutes les familles sont parcourues comme ça, par le frisson des secrets.
Mais quelque part, ce n'est pas le cas de la vôtre. C'est-à-dire que c'est un secret sans en être un. André, le fils de cet homme dont vous venez de parler, a grandi sans son père. Mais il le sait. On le lui a dit.
Oui, mais on ne lui a pas dit qui était le père.
Qu'est-ce qui est important ? C'est de savoir que votre père n'a fait que vous adopter, ou au contraire, de connaître l'identité précise de celui qui n'a pas voulu vous reconnaître.
Ce qui est important, peut-être, c'est de sentir que la question de la place se pose. Où est la place ? Où est sa place ? Où est la place de ce fils ? La question de la place ne se pose pas du tout de la même façon selon que vous vous situez par rapport aux générations qui vous ont précédé. Et selon que vous savez qui est le père ou qui ne l'est pas. D'ailleurs, la question du père, dans Histoire, oh là là, elle est vertigineuse, elle est totalement vertigineuse. Et je pense que c'est fondateur pour André. Si ce n'est que c'est un vertige, c'est un frisson, mais en ce qui concerne André, le fils... Il réussit, si je puis dire, à en jouer d'une manière assez, finalement, heureuse, parce qu'il a eu la chance de grandir dans une famille, dans le Lot, où on se tient chaud. Voilà. et où on lui a donné...
Élevé par des femmes, essentiellement.
Voilà.
Mais je transforme ma question, car vous n'avez pas tout à fait répondu, si vous me permettez. Et alors là, je creuse, parce que je crois que c'est vraiment au cœur aussi de ces silences, qui sont les silences des pays, pour ne pas dire les silences des campagnes. Quel homme devient-on, ou quelle femme devient-on, lorsqu'on ne connaît pas l'identité de son père et que l'on a une mère intermittente, que l'on ne voit jamais, ou presque?
On devient un homme à la fois vertigineux et vaillant. Parce que pour faire face au vertige, il faut être vaillant.
À 20 ans, il devient un héros de la résistance. Vous racontez que l'histoire de son père, qu'il ne connaît pas donc, c'est l'inverse. Il avait 16 ans en 1918. Vous vous rendez compte de ce que ça peut être comme frustration pour un jeune homme d'avoir 16 ans en 1918? D'autres diraient, c'est une chance. Il n'a pas été envoyé à la boucherie. Mais lui, à 16 ans, il aurait tellement voulu monter au front.
Et cette frustration lui reste sur le cœur. Et par ailleurs, cet homme-là qui a 16 ans, donc en 1918, en effet, aura un âge qu'il est facile de calculer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, il y aura des aiguillages à prendre.
Je ne veux pas faire de la psychologie comme au comptoir du Café Pêche de chez Mathias Hénard, mais est-ce que ça explique ça, ce qu'on vient de dire? Est-ce que ça explique cette frustration que l'on ne soit pas capable de devenir père, que l'on ne veuille pas s'intéresser à l'enfant que l'on a fait à une jeune infirmière alors qu'on avait à peine 20 ans et qu'on a laissé peut-être vivre sans jamais chercher à le retrouver?
A-t-il su? A-t-il su que cet enfant avait été conçu? L'a-t-il su? C'est encore un blanc que je laisse, hein, une porte que je laisse ouverte dans le récit. Hein. En tout cas, il ne peut pas se déployer dans la paternité, de toute façon. Il n'y a pas de place pour ça en lui. Ça n'est pas possible. Et ça vient peut-être aussi de la façon dont il a commencé d'être au monde dans une configuration familiale où sa place était telle qu'il lui était difficile de s'inventer ce qui doit être quand même assez généreux, à savoir de devenir un père.
Je parlais tout à l'heure de livres jumeaux. Laurent Mauvigné, votre roman, écrit de manière très différente, 600 pages, là où Marie-Hélène a choisi d'en écrire 150, très différent dans la forme, raconte en réalité aussi ce point d'achoppement, la paternité.
Ouais. La question de la lignée est rompue. C'est-à-dire que le père, il va pouvoir exécuter le programme qui lui est assigné par les générations précédentes, mais parce qu'il connaît la lignée dans laquelle il s'inscrit. Le fils, ça ne sera pas son cas. Et ça, par exemple, c'est ce qui en fait aussi un personnage vraiment du XXe siècle et très moderne. C'est comme s'il y avait une espèce de génération zéro, en fait, et que le fils, c'est l'histoire du début d'une modernité qui ne sait pas trop par où aller, en fait, et qui nous parle de notre présent, de ce point de vue-là.
Et le récit de l'invention de soi, parce que ce fils va pouvoir
malgré
s'inventer.
Tout.
Ben, au contraire, peut-être pas malgré tout, peut-être... Je pense
grâce
même que... Peut-être grâce à, parce qu'effectivement, il n'a pas le choix, il est obligé d'être vaillant.
Ah, alors ça, c'est un point très important. Est-ce que c'est parce qu'il y a cette absence, ces secrets et cette lacune que l'on est capable de se dépasser? Ou est-ce que c'est malgré ces handicaps?
Les deux à la fois.
Les deux à la fois, oui. Je dirais ça aussi.
Je crois qu'il ne faut pas choisir.
Mais Marie-Hélène Lafont, lorsque ce personnage du fils apprend assez tard dans sa vie, au moment où il se marie, après la guerre, il a passé la trentaine, il apprend l'identité précise de ce père qu'il n'a jamais rencontré. Il connaît son adresse. Il apprend également que ce père, en réalité, vient de ce lieu pas si lointain, Chanterelle. Que décide-t-il de faire?
Rien. Il va rester au bord. Il va rester pendant très longtemps au bord d'un désir. Il ira flairer la piste. Hein. Il ira la flairer quand il deviendra lui-même père. Ça, je crois que ça doit probablement rebattre les cartes. Hein. Donc il ira flairer la piste, mais il restera au bord.
Vous avez une très belle expression. Vous dites, c'est pas qu'il lui manquait quelqu'un, mais quelque chose. Mm-hmm. Quoi?
Des gestes, peut-être. Une odeur, un corps de père. C'est peut-être ça qui lui manquait.
D'où vient-il ce texte, celui-là particulièrement, Marie-Hélène Lafont ?
Alors, il vient à la fois d'une histoire dont j'ai été témoin, une histoire de famille, qui n'est pas survenue dans ma propre famille. Hein. Ça n'est pas un détail insignifiant, je crois. Cette histoire de famille est survenue dans une famille qui m'est très familière depuis 40 ans, qui m'est proche. Et elle m'a été d'emblée confiée. On m'a dit « tu la raconteras ». C'était l'été 2012. Tu vas la raconter, cette histoire. D'emblée, j'en ai rencontré les protagonistes. D'emblée. Et ma propre sœur, témoin de cette histoire aussi, mais à un degré plus éloigné, m'a donné le titre. Elle m'a dit, si tu la racontes, ça s'intitulera « Histoire du fils ». C'était 2012, ça. Hein. On est en 2020. Donc, il m'a fallu du temps. Hein.
C'est incroyable, hein, comme genèse.
Ouais, c'est étonnant, ça, ouais.
Alors, elle vient du réel, mais je crois qu'elle rencontre j'allais dire une préoccupation, mais non, c'est pas le mot. Elle rencontre un vertige très profond chez moi qui court dans tous mes livres, c'est-à-dire cette question de la filiation. Mmh. Voilà. Et de la place dans la filiation. Où est ma place ? Où est la place ? D'ailleurs, la question de la place, hein, elle est dans tous nos livres. Hein. Ouais. Alors, d'une façon vraiment totalement vertigineuse. Et jubilatoire, éventuellement. Voilà. Mais c'est une question qui m'obsède. Et cette histoire, si vous voulez, je ne pouvais pas la laisser passer. Elle était pour moi.
Oui, elle était pour vous. Vous en faites un livre... On croise un personnage qui s'appelle le père Michon. P.M.
Ouais.
Alors, c'est bizarre, parce que P.M., le père Michon, moi, ça me rappelait plutôt Pierre Michon, grand écrivain que nous vénérons dans cette émission en particulier, qui est souvent venu. Votre écriture se rapproche de plus en plus d'une écriture michonienne.
Comment faire avec ça? Je ne sais pas. Je suis une travailleuse du verbe, je vous l'ai déjà dit, je crois. Donc... voilà, j'en suis là avec le matériau, c'est-à-dire avec les mots. Mais j'ai placé, en effet, Pierre Michon à l'orée de ce texte. Alors, je lui ai joué un vilain tour. Hein, j'en fais un professeur au lycée de garçons d'Aurillac. Oui,
c'est drôle, c'est très drôle.
Voilà, qui débite les bucoliques en tranches juteuses. Et quand
ça va beaucoup l'amuser.
Ouais. Quand je le lui ai dit... Il m'a dit qu'en effet, mais il l'avait déjà dit dans des entretiens, il m'a dit qu'en effet, de toute façon, il aurait bien pu finir, s'il n'avait pas été écrivain, il aurait bien pu finir prof ou clochard.
Parlons de la langue et de ce travail que vous faites, livre après livre, sur le verbe. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est celui qui est un éloge du bon sens paysan. Ah, alors ça, il fallait le faire. Vous parlez de ces formules, je vous cite, que l'on peut tourner des centaines de fois derrière ses dents. Elles glissent, elles échappent. Par exemple, celle-ci. Les choses sont comme elles sont. Ah, qui n'a pas entendu ça une fois ? Ou alors, les chiens ne font pas des chats. Ou alors, encore, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Votre personnage, le père, Paul, les récite pour s'endormir, ces formules de bon sens paysan. Pourquoi vous semble-t-elle si importante ? Pourquoi leur rendre hommage ?
Parce qu'elle dessine un rapport au monde qui fut, il faut bien le dire, le mien au départ. Et peut-être n'est-ce pas seulement une manière de leur rendre hommage, une manière, je les fixe certes, mais j'en joue. On tourne autour, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche
aussi.
Et derrière la barrière de ses dents avant de les prononcer. Elles restent closes, elles sont mystérieuses, elles sont comme des sortes de talismans. Et on va les dépasser. On va faire autrement pour inventer sa vie, sinon ça ne va pas être possible. Hein. Sinon il ne se passe rien si on en reste là.
Certains le font, hein, mais c'est pas... Mais cela dit, c'est vrai que les chiens ne font pas des chats. C'est inévitable.
Histoire du fils de Marie-Hélène Lafont aux éditions Buchet-Chastel. Un peu de lecture à voix haute maintenant, si vous le voulez bien, avant d'enchaîner avec Laurent Mauvigné et avec Serge Joncourt. Notre grand concours, si on lisait à voix haute, vous le savez, est ouvert aux élèves de la 6e à la terminale. Et pour l'inscription, eh bien, ça se passe ici. À l'adresse qui est en train de s'inscrire sur le bas de votre écran, lumni.fr/concours LGL. Alors, tout comme l'année dernière, les écrivains que vous aimez, Nous leur demandons de se rendre, s'ils le veulent bien, dans des classes participantes pour donner des conseils, pour faire des rencontres. Marie Desplechin, auteur d'une quarantaine de livres pour la jeunesse, mais aussi de plusieurs romans, a rendu visite aux élèves de la classe de 6e 1 du collège Romain Rolland à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Regardez, la rencontre entre Marie Desplechin et des élèves a été filmée par les élèves et candidats eux-mêmes.
Par une trop chaude après-midi d'été, les habitants se sont réfugiés dans la fraîcheur relative de leur maison. Ahmed, lui, redescend de la montagne et traverse à dos de cheval le village aux ruelles désertes.
Quelquefois, je remarque que tu vas un petit peu vite. Et en fait, on peut être lent.
Et encore, elle a beaucoup ralenti, Anaïs.
Oui, mais on voit qu'elle a... On voit, t'avais pas peur, non? On voit que t'es à l'aise. Et ça, c'est vraiment bien.
Ma famille est comme le soleil. Il ne faut pas la regarder en face. Il faut la regarder à travers un petit trou dans une boîte. Pour commencer, il y a papa avec son barbecue. C'est un objet de fabrication spéciale.
Quand elle commence, elle dit « Ma famille est comme le soleil. Il ne faut pas la regarder en face. » Et vous voyez, en fait, la voix, elle tombe à chaque point. Tu vois arriver le point et ta voix, elle tombe dans tes chaussettes. Pas la peine, tu peux la lever. « Ma famille est comme le soleil. » Il ne faut pas la regarder en face. Il faut la regarder à travers un petit trou dans une boîte.
Les Achéens avaient mis un terrible plan à exécution. Ils avaient fait semblant de quitter leur campement comme s'ils ne croyaient plus à la victoire. Mais quelques chefs grecs sous la conduite du glorieux Ulysse étaient restés cachés dans le ventre du cheval de bois que les Troyens avaient tiré à l'intérieur de la ville.
Je voudrais saluer la manière dont tu lis tous ces mots difficiles et que tu ne butes sur aucun. On sent que ça fait partie de toi, tu l'as intégré à toi. Il faut absolument savoir ce que veut dire chaque mot d'un texte. Plus on voit ce que la personne qui l'a écrit voulait dire, plus c'est facile à lire.
Voilà, je vous rappelle l'adresse pour inscrire une ou plusieurs classes, pardon, lumni.fr/concours-LGL. Allez-y, c'est très simple et c'est une formidable aventure qui va se dérouler jusqu'à la finale, à la fin de l'année scolaire, donc au mois de juin prochain. Voilà, on revient à ces questions que nous évoquions de la filiation, de la paternité, mais aussi du pays ou de la campagne avec vos romans, Laurent Mauvigné et Serge Joncourt. Nature humaine, alors Nature humaine, j'aime beaucoup le titre, vient de paraître aux éditions Flammarion. C'est une drôle de nature humaine que vous nous présentez, dites-moi. Formidable plongée dans les questions que se pose un jeune homme. Un jeune homme qui reprend, un petit peu malgré lui, la ferme familiale et qui essaye de concilier cette vie qui lui a été imposée avec son envie de liberté. Puis qui va devenir militant et puis un peu activiste, limite terroriste également, mais par amour pour une femme inaccessible. L'histoire se déroule, c'est très important, entre 1976, année de la grande canicule, et puis 1999, année, souvenez-vous, de la grande tempête. Entre ces deux dates, qui n'ont bien sûr rien à voir avec le réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui, il y a eu Tchernobyl, il y a eu la construction des autoroutes sur les meilleures terres de campagne, et puis quelques autres marqueurs qui ont peut-être séparé les Français de leur campagne et qui sont au cœur de votre roman. Roman brillantissime, Serge Joncourt. Je voudrais qu'on commence par planter le décor. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette ferme du Lot, les Bertranges, où se trouve cette famille qui, depuis, comme chez Marie-Hélène, depuis 3 générations, exploite les terres. Je ne sais pas si le verbe « exploiter » est un très beau verbe.
Exploitant agricole, ça c'est venu après. Oui, bah, la dimension importante, c'est qu'il y a des terres. Il y a des familles, mais souvent, liées à ces familles, il y a des terres. En tout cas, c'est un sujet que je connais un peu, quoi. Et à partir du moment où il y a des terres, un bout de terre, enfin, c'est pas rien, un bout de terre. Un bout de cette planète, quoi. Il y a une forme de responsabilité à considérer ce qu'on va en faire, à qui on va la passer, quoi. Alors, ce qui se passe dans cette famille, c'est qu'il y a 4 enfants, il y a 3 filles, qui, elles, sont attirées par la ville. C'est, voilà, les années 70.
Nomades, elles ont envie de quitter cette campagne, d'aller à la ville.
Voilà.
De rompre avec la sédentarité.
C'est une ligne de fracture que je connais très bien, ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont envie de rester, de ne pas bouger du tout, et d'autres qui sont attirés par, convoqués par l'ailleurs? Ça, c'est quelque chose que...
Avez-vous la réponse à cette question?
Non, parce que... Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais ce qui est important, c'est que ces années-là, de 70 à 2000, il y a une forme d'accélération du temps, de l'histoire, des technologies qui font que, à partir du moment où il y a le téléphone chez vous, qu'est-ce que vous voulez? Ça change nécessairement votre rapport au monde. Et d'une certaine façon, vous vous êtes peut-être émancipé de cet ici, dans la mesure où vous commencez à entendre que vous pouvez revenir ici, mais sans venir. Ça, c'est formidable.
Les pages dans lesquelles vous racontez l'implantation des poteaux de téléphone sont absolument magnifiques. La manière dont elles arrivent, c'est une révolution, si on vous suit bien. Une révolution non pas historique, mais géographique. Mathias Sénard, c'est ça?
Ah oui, tout à fait. Mais on voit bien justement les évolutions de la transformation du territoire dans le roman. C'est-à-dire que c'est non seulement, dans un sens, l'aspect positif, en tout cas technologique, de ce qu'apportent les poteaux téléphoniques, le téléphone, justement, le rapport à l'extérieur, et puis aussi la destruction des possibilités de forme de vie, que ça signifie avec le temps, avec le passage du temps.
Oui, parce que le téléphone, on y est habitué, finalement, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Mais dans les années 70, moi, j'ai vu ça, voilà, des voisins
qui
refusaient le poteau, parce que ces poteaux, c'est des poteaux de pain, hein. Ouais. Mais ils sont enduits d'une sorte d'arsenic, en fait. Ils sont traités à l'arsenic. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, j'y ai pensé cet été en les voyant, ils ont 60 ans, mais ils sont bien plus en forme que les poteaux en béton d'EDF. C'est qu'ils étaient quand même sacrément traités à l'arsenic. Donc ceux qui disaient de se méfier de ces poteaux de pain traités à l'arsenic, on se foutait d'eux. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose à écouter et à entendre. Parce que voilà, le père Cressac, qui refuse qu'on plante ses poteaux, les voit comme... C'est le voisin.
Un chevrier, pas très commode, hein.
Pas très commode, un peu militant du Larzac, parce que le Larzac est à côté, pas loin. Le Larzac est une lutte contre l'extension d'un camp militaire qui a duré 10 ans. On l'a un peu oublié, ça. Il y a des luttes qui peuvent durer sur la longueur. Et lui refuse ses poteaux de pain, tout simplement parce qu'il les voit comme des suppositoires à arsenic et que ça va contaminer sa terre. Mais quel fou! Mais peut-être qu'il avait raison. Donc, si vous voulez, ça a l'air très court, hein, 75 à 2000, mais en même temps, il y avait cette montée comme ça, on va dire, chromatique vers l'an 2000. Et moi, gamin, dans les années 70, petit, enfin, pas si petit que ça.
Vous voir comment?
Comme ça.
Comme ça?
Oui, peut-être un peu plus.
D'accord.
J'étais toujours plus grand que mon âge. Eh bien, cet an 2000, c'était une sorte de perspective miraculeuse. Vous vous rendez compte? Ce n'était pas arrivé depuis un millénaire, ça de changer d'un millénaire. C'est quand même quelque chose dans la vie d'un homme, d'une femme. Enfin, il y avait des promesses là-dedans. Il y avait le téléphone, mais il y avait aussi le Concorde. C'est un avion qui mettait 3 heures pour aller à New York. On promettait des TGV, des trains hyper rapides, ce qui fait que Cahors serait plus qu'à une demi-heure de Paris. Des choses, des voitures qui volent, enfin, que sais-je. Tout ça, c'était juste après l'an 2000. Il y avait des numéros spéciaux de Paris Match. On voyait tout ça avec des dessins, des villes verticales. On mangerait plus que des gélules.
C'était mais vous racontez fascinant. Que dans ces fantasmes sur l'an 2000, il y avait une seule chose qui avait disparu, la campagne. Elle n'existait plus, tout se passait à la ville.
Disons que toutes les projections qu'on pouvait en faire sur des reportages télé ou dans les magazines, c'était toujours lié à la ville. L'an 2000, ça se passerait en ville.
Finalement, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les 6 prochains mois vont se passer, si possible, loin des villes. Comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre dans ce basculement que vous explorez?
Moi, ce que je montre aussi, c'est une famille qui explose, on pourrait dire, mais c'est aussi un rapport à l'environnement qui se distend. Et d'une certaine façon, ils sont éleveurs. Alors, Alexandre a des terres, mais il a surtout des vaches allaitantes. Hein. C'est pas toujours très bien vu de parler des éleveurs bovins. Mais enfin, ça existe, et puis il y a quand même 14 millions de vaches en France, ou un peu plus même. Il y en a, quoi, ça. Donc on ne va pas se voiler la face. Et c'est une période où ça s'est quand même considérablement... Les hypermarchés apparaissent. Les premiers hypermarchés, en tout cas pour ce qui me concerne, s'appelaient Mammouth, qui quand même, dans l'intention, voulait peut-être dire quelque chose, quoi. Ils écrasaient, quoi.
Déjà, ils écrasaient. D'ailleurs. Mammouth écrase les prix. Vous vous souvenez de ça?
Absolument.
Ils écrasaient les prix, mais pas que les prix. Oui. Ils écrasaient tout, en fait. Y compris ces terres fertiles de sortie de ville...
Qui vont être avalés par les hangars.
Qui sont devenus depuis inondables. Enfin bon, il y avait là tout un dérèglement et ça se joue vraiment. Alors on peut le dater de moi, d'une façon un peu personnelle, je le date des années 70, mais, et je le fais partir de cette sécheresse, parce qu'on ne disait pas encore canicule, on disait sécheresse de 76, où là, quand même, il s'est passé quelque chose dans nos corps, parce que moi, je m'en souviens, j'ai eu chaud, très chaud, et surtout, on se demandait à un moment, quand est-ce que ça s'arrêterait ? Est-ce qu'il était possible que ça ne s'arrête pas ? Et puis finalement, on a réglé le truc en disant, bon, il s'est remis à pleuvoir en juillet, c'est centennal, ça arrive tous les 100 ans, bon, pas de problème. Les problèmes sont venus après, quand c'est pas dans 100 ans que ça s'est répété, sachant qu'on en est aujourd'hui à se demander d'année en année si ça sera en juin ou en juillet. Voilà. Donc tout ça...
Chaque année étant devenu un record de chaleur et un record caniculaire.
Tout à fait, oui. Et moi, le premier souvenir... très intime que j'ai de ces canicules, de ces sécheresses, qui sont en même temps des moments un peu d'unanimisme. Je trouve ça beau, quelque part, d'être tous rassemblés par la même émotion. On est tous au moins d'accord sur une chose, on a chaud. C'est rare en France, ça, d'être tous d'accord sur au moins un point. Donc, quelque part, il y a du bon derrière la canicule. C'est le problème, c'est le troisième jour, où là, on n'en peut plus vraiment. Et donc, le regard qu'on a aujourd'hui, alors la météo nous rassure un peu en nous disant que ça s'arrêtera dans 3 jours, dans 8 jours. Mais si on se reporte un peu à un regard un peu plus primitif, moi, j'y vois un peu la peur du soleil, enfin du ciel qui nous tombe sur la tête. Quoi. Il y a un moment, je suis rattrapé par cette peur-là, moi. La peur que le ciel me tombe sur la tête, alors que je me moquais.
On parlait tout à l'heure du bon sens paysan, mais c'est ça aussi. Le ciel nous tombe sur la tête. C'est aussi une des expressions de ce bon sens, ouais, non ?
Il y a quelque chose de très archaïque, là, qui se joue. Mais j'ai pensé tout à l'heure une chose. Vous dites Alexandre, Alexandre, le personnage principal. Alexandre a la vie qu'il a aussi parce qu'il est un garçon. Les filles peuvent partir beaucoup plus facilement. Ça, c'est une sacrée ligne de démarcation qui passe. Hein.
Vous voulez dire, attendez, pardonnez-moi, vous voulez dire qu'il est plus facile d'être une femme et une fille à la campagne, au pays, plutôt qu'un garçon ?
Non, les filles s'en vont. Les filles, sociologiquement, dans ces milieux-là, elles s'en vont inventer leur vie ailleurs. Il n'y a pas de place pour elles. Celui qui est assigné à rester, c'est le garçon. Ça, ça me paraît quand même un motif sacrément déterminant dans la vie d'Alexandre.
Il n'a pas choisi
cette
vie.
Assignation.
Alors, il ne l'a pas choisi, mais d'une certaine façon, il aime ça. Il aime. Moi, j'en connais plein autour de moi qui aiment être dans le dehors, quoi. Ça, c'est quand même un truc. On ne pourra pas leur enlever. Je comprends ça. En même temps, je ne le désire pas, mais je le comprends. Mais être paysan, agriculteur, aujourd'hui, tout autant qu'hier, ça suppose des tas de compétences, des tas d'aptitudes physiques, mécaniques, vétérinaires, on pourrait dire. C'est un métier. J'ai le sentiment qu'on le redécouvre, là, depuis pas très longtemps, quoi. C'est un métier de vigilance. En même temps, ils sont aux avant-postes avec cette nature qui, d'une certaine façon, est le prochain conflit qui nous attend. La prochaine guerre ne sera pas interhumaine, sera juste avec notre environnement, sachant de savoir si on y aura toujours sa place. Les agriculteurs sont en première loge. Donc, voilà, j'ai envie d'y faire attention.
Vous montrez tout de même que le rapport aux filles est déterminant aussi dans les choix et les choix politiques que l'on peut faire. En l'occurrence, c'est pour plaire à une fille, que votre personnage principal, Alexandre, ce jeune homme qui a donc repris l'exploitation un peu par déterminisme, un peu sacrificiel, va commencer à fricoter. Tiens, je prends l'expression chez Mathias Hénard. Oui, le fricot, dont j'ai appris que c'était à partir de la soupe. Ça vient de la soupe, le fricot.
Le fricot, c'est une forme de soupe. Oui.
Voilà. Il va fricoter, faire sa soupe avec des militants activistes assez violents, puisqu'ils vont jusqu'à faire sauter des poteaux électriques, et puis ensuite des centrales nucléaires, et puis pourquoi pas tout un tas d'autres choses.
Voilà, disons qu'en gros, en suivant un peu ses sœurs de temps en temps à la ville, à Toulouse, il va effectivement faire des rencontres. Et là, d'une certaine façon, il est un peu considéré comme partie négligeable, parce que ses sœurs font des études et lui ne fait pas d'études, supérieures en tout cas. Et donc, il ne se sent pas complètement à sa place, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure. Seulement, là où il devient intéressant pour ses activistes, c'est que, étant agriculteur, il a de l'engrais, le fameux nitrate d'ammonium, en tout cas les ammonitrates qui font des engrais, qui est un produit explosif. Hein. On l'a compris récemment à Beyrouth en particulier, à ZDF avant. Enfin bon, on le savait, ça. Et en particulier, ces activistes-là qui, dans les années 70-80, on l'a peut-être un peu oublié, mais la violence, elle était quand même féroce. Enfin, 3 fois par semaine, il y avait un attentat à l'explosif.
Ça, vous le racontez, hein, vous mettez bien les choses en perspective. C'est l'époque des brigades rouges, c'est l'époque également des prolétaires armés, c'est l'époque de l'ETA, c'est l'époque également en Bretagne où on a des actions extraordinairement violentes.
Oui, alors c'est vrai que moi, la violence sur laquelle je m'arrête un peu, c'est lié à Golfech, c'est-à-dire la construction d'une centrale nucléaire. Et ça, c'était quand même un enjeu de civilisation assez majeur dans les années 70-80. Est-ce qu'il est raisonnable de faire ça ? Enfin, c'est autre chose que les poteaux à l'arsenic, si vous voulez. C'est un choix de société qui engage quand même. Et on pouvait comprendre ceux qui n'étaient pas d'accord. Et puis finalement, ben, d'une certaine façon, toutes ces luttes se sont abolies. Enfin, toutes les centrales se sont construites. Et on a un peu oublié ce combat-là, à tel point qu'on en a été cet été avoir des manifestations pour pas que Fessenheim ferme. Enfin, et tout ça, c'est en 40 ans. C'est pas énorme. Et le regard a changé.
Le regard a changé. L'une des choses que vous décrivez, je trouve très bien, et ça m'a fait penser au livre aussi de Mathias Sénard, à la façon dont tout se cristallise autour d'un maire parfois, c'est le moment où un maire tente de faire prendre conscience de ce qui va se passer si une autoroute traverse les champs. Pas seulement d'ailleurs les champs, mais si on abandonne aux autoroutes et aux hangars les meilleures terres, c'est-à-dire les terres qui sont près des rivières. Est-ce que c'est ça, finalement, la grande fracture du monde rural, ce moment où, au nom du progrès, pour faciliter le libre-échange entre Paris et Barcelone, on a décidé de tracer une ligne droite et de la tracer à l'intérieur de ces campagnes, de ces pays ?
Oui, ça, c'est quelque chose à laquelle je suis sensible, parce que j'ai été concerné du point de vue familial par une histoire de... Un projet d'autoroute, c'était un projet. C'est-à-dire, à un moment, on se dit, tiens, ça va passer par là. On se dit, ah, c'est pas pour nous. Et puis finalement, paf, 5 ans après, le projet revient, et puis le Premier ministre change d'avis, et puis on le fait plus. C'est une sorte de fantôme, comme ça. Et alors, à partir du moment où Chirac devient Premier ministre, cette autoroute, il la fond, hein, de Paris à l'Espagne, enfin, de la France à l'Espagne, de Limoges à Toulouse. Et à partir de là... Moi, quand je roule sur une autoroute, je suis toujours un peu rattrapé par cette pensée-là de rouler sur une histoire, de rouler sur des terres, évidemment, qui d'une certaine façon n'existent plus, de rouler sur une forme de frontière, de mur de Berlin définitif entre deux espaces qui étaient joints il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'une certaine façon, on n'en a pas conscience de ça. Alors que moi, ça m'a... Je ne dis pas que je suis peiné, chagriné à chaque fois que je roule sur une autoroute. Heureusement que non, ça pourrait être vrai des voies ferrées aussi. Mais il n'empêche que ces choses-là, ces infrastructures-là, ont été d'une violence, très souvent, folle. Cet environnement, il n'était pas prévu pour ça. Moi, c'est un peu le pressentiment que j'ai, quoi. Et on lui a infligé tout ça en 40 ans, quoi. Les centrales, les autoroutes, les voies ferrées, les avions. Bon. Il y a un moment, ça coince.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait ? On est dans un sacré bazar par rapport à ça. Je veux pas vous démoraliser.
Mais dans le livre de Mathias Sénard, on fait du maraîchage ? On y va ?
C'est une solution alternative.
Ben, on s'invente. On résiste et on s'invente.
Oui, après, toute la question, c'est aussi, bien sûr, les éleveurs doivent continuer à vivre. Enfin, il faut évidemment leur trouver des solutions.
En faisant autrement, en travaillant autrement.
Oui, mais c'est compliqué, ça demande beaucoup d'argent. Des terres, justement, beaucoup de terres pour faire pousser de l'herbe. Enfin, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas des transformations qu'on peut faire.
Mais je crois que ça a commencé déjà. Ça fait 20 ou 30 ans, ça fait plusieurs décennies qu'il y a ici et là des initiatives de plus en plus peut-être visibles de gens qui font de l'agriculture autrement, qui cessent d'être des exploitants pour redevenir des paysans. C'est-à-dire, dans paysans, il y a pays. Hein, et on ne le détruit pas, on le réinvente. Et donc, appellation d'origine contrôlée, produits de qualité, circuits courts, enfin, etc. Économiquement, ça porte des noms et c'est déjà présent.
C'est ça aussi que vous racontez à travers le destin d'Alexandre. Je ne veux surtout pas raconter la fin du livre, parce qu'il y a évidemment un rebondissement, un retournement même de situation. Mais est-ce que, pour reprendre la distinction très fine que vient de faire Marie-Hélène Lafont, c'est à ça que vous appelez, c'est-à-dire passer de l'exploitation au paysan ?
Je pense qu'il faut...
De l'exploitant au paysan ?
Oui, il faut y revenir, et d'une certaine façon, ça se fait. Il y a de plus en plus de magasins de producteurs qui sont... qui se sont installés il y a une dizaine d'années, auxquels on ne croyait pas au début, en se disant mais ils sont un peu fous, ils rêvent. Et finalement, il y a aujourd'hui, on fait la queue dans ces magasins de producteurs. Ouais. Mais on sait d'où vient le céleri, le veau et les œufs, quoi. Et ça, ça rassure. Et on va même plus loin. J'en vois de plus en plus qui achètent des poules pour faire des œufs. Ça, c'est une redécouverte. Ouais. Pendant des années, moi, j'étais stupéfait de ça, de plus voir de poules dans les campagnes.
C'est vrai. Ouais.
Aujourd'hui, à nouveau, on les voit, on les entend. Mmh. Et les renards se régalent, d'ailleurs. Enfin, tout ça, ça revit, quoi. Donc, il y a une forme de... Je ne sais pas si c'est le retour à la terre. Comme c'est... Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mais peut-être, oui.
Moi, j'appelle ça l'acte de confiance. On n'a pas le choix, il faut faire un acte de confiance.
C'est pas mal, l'acte de confiance. C'est peut-être plus beau que retour à la terre. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est peut-être moins connoté, en
fait. Voilà, ce que j'allais dire. Oui.
Le retour à la terre, c'est un côté quand même... On n'est pas sûr d'aimer cette campagne-là, justement.
Oui, c'est le problème, c'est que c'est connoté.
C'est connoté. Ouais. Alors qu'en fait, je crois que, par exemple, quand on disait tout à l'heure que le rapport aux lignées comme ça rompues, ce qui a été une rupture très violente, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être un peu optimiste là-dessus et de le voir plutôt comme une chance, en fait, parce que j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui dans les campagnes, pour reprendre le mot campagne, c'est plutôt des gens qui vivent parce qu'ils le choisissent. Oui. Et ce n'est pas subi.
Nature humaine, le nouveau roman de Serge Joncourt vient de paraître, c'est aux éditions Flammarion. Alors, vous savez que j'aime bien, moi, j'ai des citations, je les cherche comme ça dans les livres tous les jours. Tiens, par exemple, page 426 du roman de Mathias Sénard. Ah, alors là, je lis cette phrase. « Qu'il faut, s'il vous plaît, graver au-dessus de votre téléviseur. Les librairies sont l'âme d'un pays. Elles contiennent sa part de local et d'étranger, sa part d'enfance et de savoir, de fond et de nouveautés. » Je vous emmène, grâce à cette phrase de Mathias Sénard, en librairie, là, tout de suite. On va rester d'ailleurs, tiens, du côté des Deux-Sèvres, on a eu envie d'aller voir à quoi ça ressemblait, cet endroit où se tient le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. On n'est pas très loin, je vous emmène à Mel, c'est un petit peu plus à l'est, où Emmanuel Delattre et Joachim Florent ont eu la bonne idée de reprendre une librairie. Cette librairie s'appelle le Matoulu, et elle a pour particularité d'être la seule à une trentaine de kilomètres à la ronde. Regardez, Inès de la Motte-Saint-Pierre est partie à la campagne.
Faire vivre une librairie comme le Matoulu dans une petite ville comme Mel, ça veut dire qu'on connaît bien les gens. On connaît les goûts des enfants, on connaît les affinités des mamans. C'est ce qui crée ce lien très fort avec les lecteurs. C'est très agréable. Pour moi, la littérature, c'est la possibilité de mieux se connaître. C'est ça qui est très, très important. Le livre à lire et à relire, c'est Débâcle de Lispitz. On est dans la campagne flamande et c'est l'été où tout va basculer dans la vie d'Eva. La narration est tendu, on est sur le fil, c'est d'une violence inouïe. Mon livre sexy, c'est L'herbier sauvage de Fabien Vellman, illustré par Chloé Cruchaudet. En fait, Fabien Vellman mène des entretiens avec des gens qu'il ne connaît absolument pas dans des lieux publics et il leur demande de lui parler d'une expérience qui est liée à leur vie sexuelle. Ça peut être quelque chose d'honteux, quelque chose qui a été fondateur, quelque chose qui a été insolite et qui n'est arrivé qu'une fois. C'est magnifiquement illustré par Chloé Cruchaudet. Oh, mon grand roman américain, c'est Le diable tout le temps, de Donald Ray Pollock. C'est un roman d'une noirceur insoutenable. C'est aussi le portrait assez édifiant de ce que pouvaient être les États-Unis dans les années 50-60. Rien n'est épargné au personnage. Apprendre à finir, de Laurent Mauvignier. Ce qu'il y a de bluffant dans le style de Mauvignier, c'est la manière dont il plonge complètement son lecteur dans l'intimité de personnages qui, pourtant, n'ont pas les mots. C'est un roman magnifique qu'il faut lire à tout prix.
Ah bah oui, ce qu'il y a de bluffant dans le style de Mauvignier, ils en parlent bien des libraires, hein, du style des écrivains. C'est plaisir ça, non?
Bah ça fait très plaisir, ouais, bien sûr.
Histoire de la nuit, histoire au pluriel, qui vient de paraître aux éditions de Minuit sous la signature de Laurent Mauvignier, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un polar rural. C'est une tragédie antique à la campagne. C'est un thriller construit avec un art du suspense, avec des coups de théâtre qui n'ont, croyez-moi, rien à envier au meilleur scénario de film noir. Là, vous allez nous expliquer comment vous avez fait. Nous sommes, Laurent Mauvignier, dans un petit village qui s'appelle La Bassée, un hameau qui se résume en réalité à trois maisons, dont l'une est inoccupée. Alors, les deux autres maisons sont occupées, elles, par une artiste peintre, fantasque, venue de Paris, enfin, il y a des dizaines d'années. Et puis, maintenant, elle vit ici, au pays, Marie-Hélène Lafont. L'autre maison est occupée par une famille de paysans, les Bergogne. C'est jour de fête, dans le hameau, les 40 ans de Marion Bergogne. Mais, tout à coup, trois hommes font irruption dans ce hameau bien tranquille, et là, tout bascule. C'est aussi, ce roman, une magnifique réflexion sur la violence, sur la peur et sur la terreur. Allons-y, Laurent Mauvigné. Avant de parler du style, on raconte un peu l'histoire. Parce que vous allez m'expliquer le style Mauvigné. Hein. Ça, il y a un mystère. Ce paysan, Bergogne, lui, il est resté. Ouais. Alors que tout le monde avait déserté la campagne. C'est un petit peu le cousin de l'Alexandre de Serge Joncourt. Ouais. Ouais. Lui, pourquoi est-il resté? Est-ce que vous diriez fils sacrificiel également?
Lui se vit pas comme sacrificiel, je pense qu'il vivrait plutôt ses frères comme des déserteurs.
Ah oui.
En fait.
Ouais. Ça vous avez une expression, à un moment, il y restera jusqu'au bout, coûte que coûte. Oui, on a l'impression que, là, je reprends les termes de Mathias Sénard au début de l'émission de campagne militaire, il tient la position.
Il tient la position, ouais, c'est plutôt ça. Ouais, ouais. Pour ça que je pense pas qu'il le vive là où il est dans un rapport un, peut-être un peu sacrificiel. C'est peut-être dans son rapport amoureux, dans son rapport à la vie en général, mais sur cet endroit-là, je ne crois pas, en fait. Par rapport à la question de respecter, pour le coup, le vœu fait aux parents, fait au père, ouais. Là, je crois qu'il est au contraire qu'il se vit comme fidèle plus que sacrificiel. Quoi.
Dans sa vie de couple, puisque c'est de ça dont il est question, vous écrivez à un moment qu'il se sent surnuméraire, il se sent isolé, il se sent abandonné malgré tout, même s'il vit avec cette femme, Marion, qui va fêter ce soir ses 40 ans, s'ils ont une petite fille, Ida, il se sent en trop. Est-ce que la campagne, est-ce que le fait d'être justement isolé dans ce hameau où il n'y a que trois maisons, dont une inoccupée, renforce ce sentiment également d'exclusion qu'on peut ressentir aussi en ville?
Oh ben je crois que ça peut se ressentir partout, ça, pour le coup, c'est pas effectivement... Après, moi, je crois que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup, moi, dans mon enfance et mon adolescence à la campagne. Des gens comme ça qui se vivaient... et j'en fais partie, d'ailleurs. Des gens qui se vivaient... pas complètement à leur place... parce que les places étaient très, très identifiées. Un homme, c'est comme ça. Une femme, c'est comme ça. C'est quelque chose... Tout le monde était très à sa place. Chacun occupe une fonction très, très définie. Et pour peu qu'on se sente un peu rêveur, un peu décalé, ou un petit peu physiquement pas comme il faudrait, ou... ben ça suffit pour que... Ou par exemple, dans le cas de Bergogne, par exemple, ben, il se trouve qu'il est célibataire un peu trop longtemps. Et il se retrouve que... Donc il va continuer à aller au bal du village, et puis il va se retrouver avec les petits frères de ses copains, plus... Et, parce que tous les autres, ça y est, ils se sont mariés, on se marie très tôt, et tout ça. Et lui, donc on commence à le regarder un peu comme le neuneu du village. Genre, ben, t'es encore là, tu viens encore au bal draguer des gonzesses qui te regardent même pas.
Ça, c'est des choses que vous dites, vous les avez ressenties.
Ah bah oui, moi c'est déjà... Ouais. Mais j'ai envie de dire que tout le monde à la campagne connaît ça.
Alors justement, pour ceux et celles qui ont grandi à la campagne ou au pays, est-ce que vous avez ressenti ça, aussi, Marie-Hélène?
Ça, c'est d'une justesse absolument incroyable. Et en effet, avec ces quelques pages sur le bal, il avait continué à aller au bal juste un peu trop longtemps. On comprend tout de suite quel est le décalage de cet homme. Et cet homme, au fond, il est peut-être trop doux et trop tendre pour être à la place à laquelle les autres veulent l'assigner. Et ça ouvre une brèche dans sa vie.
Trop doux.
C'est aussi ça où il y a le rapport un peu guerrier, où il faut être un battant, voilà, pour peu qu'on soit un petit peu décalé, ça ne va pas.
Trop doux ou trop tendre, dit Marie-Hélène Lafont, un peu décalé, dites-vous. Et du coup, Christine, cette artiste peintre, même si elle est au village depuis des années, même si Bergogne, ce paysan, vient quasiment tous les midis déjeuner avec elle, elle se pose cette question, qu'est-ce qu'un air paysan ? En le regardant, il a l'air paysan, mais qu'est-ce que c'est qu'un air paysan? Vous écrivez « L'image d'un homme qui ne veut pas sortir de sa ferme et s'y tient littéralement enfermé. » Beau jeu entre ferme et enfermé.
Bah, j'ai découvert en l'écrivant comme ça, pour le coup, ça m'a sauté à la gueule. Vraiment, je me suis dit, mais c'est enfermé, c'est quand même fou ça justement, là, et ça tombe bien parce que c'était quand même le sujet du livre, mais ça m'a saisi, j'ai trouvé ça presque, c'était dur en fait, comme le rapport au personnage comme ça, était, pour moi je me disais oui c'est ce mot-là quoi. C'est ce mot d'enfermement.
Même si on est dans les grands espaces, ben même oui, si on est paysan, qu'on est maraîcher, que l'on est exploitant agricole, on est quand même enfermé dans sa ben, ferme.
Là, par exemple, Christine, la voisine, elle est peintre, c'est quelqu'un qui a choisi sa vie, qui choisit de venir là, etc., mais qui comprend assez vite, qui est dans une espèce d'ambivalence avec les gens du village, c'est-à-dire que par exemple, elle conduit pas, elle refuse de conduire parce que sans doute elle trouve ça trop vulgaire ou je ne sais quoi. Elle aime bien montrer qu'elle est un peu différente, mais en retour, elle reçoit des lettres anonymes. Et en fait, en gros, c'est un peu la sorcière. Vous voyez, le rapport à l'histoire, le rapport. Pour moi, c'est important. Je pense que dans nos quatre livres, il y a un rapport à une espèce d'archéologie en fait. Comment tout ce qui se passe au présent est toujours sous-tendu par l'histoire. Et l'histoire familiale, mais aussi l'histoire tout court. Quoi. Le hameau, il s'appelle l'écart des trois filles seules. Et donc, on ne sait pas qui sont ces trois filles seules. Elle cherche à savoir ce que c'est, mais bon, elle ne le trouve pas. Mais au fond, elle-même, elle en fait partie. Oui. Et elle est là avec ses cheveux orange, avec ses peintures, etc. Et elle est un peu, elle est clairement regardée dans nos villages comme la folle, l'exubérante,
la fantasque, la
citadine dans son côté extravagant, quoi.
Alors qu'elle est là depuis très longtemps.
Mais
le fait de ne pas vouloir conduire, alors ça vous signe une singularité, hein.
Oui, particulièrement dans ces endroits-là, reculés.
Évidemment.
Qu'avez-vous voulu écrire ? C'est un livre sur l'enfermement, c'est un livre sur la désertification de ces lieux, c'est un livre sur la solitude à côté de l'être qu'on aime et qui, à un moment, et vous le montrez dans des pages admirables, vous regarde moins, est un petit peu distante.
Bah en fait, quand j'ai commencé le livre, je voulais juste faire un thriller pour voir, quoi, parce que j'avais écrit un petit scénario, j'avais envie de pousser, voir ce que c'était. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, en fait, ça parle quand même de quelque chose. Et je me dis, peut-être de cet enfermement. Mmh. Et puis, comme j'avais cette base très, très scénaristique, très fictionnelle, moi, ce que j'adore dans la fiction, c'est que ça permet de parler beaucoup de soi. Et on peut tout balancer, c'est formidable. Et parce que
plus que l'autobiographie.
Ah, pour moi, oui. Et donc, bon, aller chercher comme ça, dans des souvenirs, dans des images, dans des choses qui sont à la fois très secrètes et puis qu'on peut connecter les unes aux autres. Bon. Et puis, en avançant dans le livre, je me suis dit, ah non, en fait, ça parle pas de ça. Ça parle du rapport de domination entre les êtres. Et puis jusqu'à la toute dernière page, mais ça, je ne peux pas le dire, je crois que ça parle d'encore autre chose. Et c'est un livre où à chaque passage, j'ai appris de quoi il voulait me parler.
Ce qui est formidable avec ce roman, c'est qu'on se dit, mais en fait, je ne vous cache pas, hein, Laurent Mauvignier, pourtant j'adore ce que vous écrivez, mais je me suis dit en ouvrant le livre, attends, il ne va pas m'avoir, c'est bon, 600 pages pour me raconter trois personnes qui vivent dans un hameau de deux maisons, il ne faut pas pousser, là, oh, ça va. Première phrase, 30 lignes, une page et demie.
Ouais.
Et on est immédiatement pris. C'est magnétique, on ne le lâche pas avant la dernière page. Je peux vous dire d'ailleurs que ce livre se dévore. On a l'impression que c'est des vagues successives. Un petit peu comme au surf, là. On les prend les unes après les autres et elles nous enrobent, elles nous englobent, elles nous portent, elles nous entraînent. Comment est-ce que vous avez fait ça ?
Ben, en fait, le problème, c'est que moi, je suis très admiratif des gens qui savent faire des phrases courtes. Parce que je ne sais pas comment ils font pour tout mettre dans une phrase courte.
Demandez à Marie-Hélène.
Non, mais c'est vrai. Moi, je ne sais pas le faire. À chaque fois, j'ai l'impression. Je me dis, le point, dans point final, il y a final, ça me fait peur. Et donc, à chaque fois, je me dis, je ne sais pas s'il avance comme ça, si telle personne avance comme ça. Je me dis, oui, mais peut-être qu'il va faire un petit geste de côté. Donc, je ne peux pas poser tout de suite. Alors, je vais avoir besoin de montrer que ce n'est pas exactement ça. Alors, je suis toujours dans l'empêchement de terminer. Puis parfois, il y a aussi un problème, c'est que vous avez une sensation d'image ou de mouvement, et moi, j'ai besoin de faire le mouvement en entier. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et vient s'asseoir,
ouais,
je me dis, bah, il ne s'arrête pas. Pour moi, un point, il couperait quelque chose. Il ne s'arrête pas. Donc, je suis obligé de suivre le mouvement. Donc, je suis obligé de me démerder pour faire la pirouette, la contorsion qu'il faut. Mais je vais marcher avec lui et je vais aller m'asseoir avec lui.
Mathias, vous avez écrit un peu comme ça. Alors, des phrases extrêmement longues. Je me souviens de ces deux livres, parce qu'il y a eu Boussole, le Goncourt, mais il y avait Zone aussi, qui était le livre précédent, le roman précédent, où c'était un tour de force un peu semblable à celui de Laurent Mauvigné. En tout cas, sur le style, ces phrases extrêmement longues, mais qui nous entraînaient. Vous, c'était un peu comme un train lancé à toute vitesse. Hein.
Oui, il fallait un peu donner un peu de d'élan à cette phrase. Mais c'est vrai, je suis un peu comme Laurent Mauvigné. J'ai aussi pour moi, les phrases longues sont presque plus simples, puisqu'elles s'enchaînent les unes dans les autres. Elles avancent. Moi, quand j'ai lu l'histoire de la nuit, c'est un peu... L'image que j'emploierais, ce serait celle d'un escalier. C'est-à-dire que justement, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas ? Parce qu'on avance, en fait. On est pris dans cette espèce de descente, comme ça, marche après marche. On ne peut pas s'arrêter, hein, sinon on tombe. Et donc là, on va jusqu'au bout, absolument fasciné, effrayé, pris par beaucoup de sentiments les uns après les autres. Et c'est justement cette langue qui nous porte, qui nous fait aller de l'avant. S'il n'y avait pas ces phrases, bah, évidemment, il n'y aurait pas grand-chose. Hein. Ouais. On pourrait résumer ça en deux mots, et c'est précisément un livre qui tient par sa langue, par son style.
Oui, par le fait que il y a une sorte de rythme lancinant comme ça qui nous prend. Voilà, on est entraîné dans la spirale d'une façon très très insidieuse, très physique. Moi, j'ai ressenti une sorte de pression physique. Le corps est pris, il est englué dans cette syntaxe qui fait que la phrase avance, elle s'enfonce.
Ah bah oui, moi c'est comme ça que je l'ai.
Et au service du suspense, parce qu'on le disait tout à l'heure, l'ambiance monte. Dès le départ, on sent la menace de manière très sourde. Mmh. Et puis, un petit peu plus forte encore quand débarquent ces trois personnages, ces trois inconnus. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Vous nous cueillez, hein, tout de même. On va rester sur le thème de la campagne, parce qu'on devine que ça va mal se finir. Vous écrivez, page 337, les campagnes, bah oui, ce sont les nouveaux terrains de chasse des voleurs et des dealers qui étaient plus en sécurité que dans les villes.
Oui, ben ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu il y a déjà quelques années, mais que j'entendais justement en Touraine, à la campagne, chez ma mère. D'un seul coup, j'avais l'impression que c'était un univers à la Scorsese qui débarquait en pleine Touraine, ce qui ne me paraissait pas flagrant, mais j'aimais bien cette idée, j'aimais bien que les choses se télescopent comme ça, que c'est des endroits où l'imaginaire a une place très très forte. C'est important, ça.
Et une des raisons, à mon avis, qui font de l'efficacité, c'est que l'imaginaire a une place très très forte. Et dans ce livre d'ici et de maintenant, on retrouve toutes les vieilles histoires d'enfance, la porte qu'on n'a pas fermée.
Ah, voilà. C'est ça. Elles sont là, les histoires de la nuit.
Voilà, les histoires de la nuit. Voilà,
c'est des histoires qu'on raconte la bête aux Gévaudan, enfants, hein, pour qu'ils s'endorment.
C'est complètement archaïque.
Ah ben,
et c'est tellement puissant parce que je crois que ça fonde nos imaginaires. Les créatures de la nuit, ouais, ces hommes-là, ils sont sués par la nuit.
Mais c'est une sorte de oui, c'est un livre de. Pour moi, c'est un livre de contes.
D'ailleurs,
c'est ça. C'est
il est en abîme dans le roman, le livre de contes. Ouais, ouais. Il faut voir ce qu'elle lit à sa fille, oui. Marion.
Oui, elle lit des histoires pas. Oui, mais moi, il y a quelque chose, par exemple, que j'aimais beaucoup dans l'idée des contes. Mm. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins maintenant, et je pense qu'on a tort. C'est on se servait des contes d'images métaphoriques, de paraboles, etc., pour expliquer aux enfants que le monde dans lequel ils allaient vivre était peuplé de dangers. Mm. On n'était pas là pour les distraire, on était là pour les avertir. Et on les avertissait en les distrayant, mais quand même, on les avertissait, malgré tout. C'est-à-dire, le monde, attention, il y a des loups, attention, il y en a un. Le bois, peut-être pas. Faut faire un peu attention. Et on le faisait de manière hyper inventive.
L'un des points fondamentaux du livre, c'est la gradation entre la peur et la terreur. Dans les histoires de la nuit qu'on raconte aux enfants pour s'endormir le soir, ces histoires de nuit qui sont parfois des contes durs, qui font peur. On va pas jusqu'à la terreur. Vous y allez. On a l'impression que ce qui vous intéresse, c'est précisément ça. De temps en temps, je me demandais si j'étais.
Même, hein.
Oui, enfin, attendez, je me demandais si j'étais chez Mauvigné ou chez Stephen King, qui est par ailleurs un immense écrivain. Ouais. Mais franchement, on a l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que vous vous amusez, vous cherchez le point de bascule entre la peur et la terreur. Quel est-il ?
Je ne saurais pas le dire, d'abord parce que je n'étais pas sûr que ce livre réussisse à faire peur, d'une certaine manière, parce que... Non, parce que... Je me dis... Non, parce que...
Si, j'ai Marie-Hélène.
Moi, par exemple, je me suis dit...
Mathias ?
Oui, c'était incapable. Je suis été incapable de le lire à la campagne. Mais... Je ne l'aurais pas lu.
Ah oui, mais non, mais attendez, je déconseille à quiconque habite loin des villes d'ouvrir ce livre. Par contre, jetez-vous dans ce livre, parce qu'il est prodigieux. Mais enfin, pas tout seul dans un hameau de trois personnes.
Non. Hein,
parce
que...
Non, mais je pense qu'en fait, moi, c'est lié à des... Pour le coup, c'est lié à des souvenirs, et pas seulement d'enfance, aussi dans ma vie d'adulte, mais qui sont liés à effectivement, à des histoires, à des sensations liées à la campagne.
La terreur ?
La terreur. Moi, la peur est allée jusqu'à la terreur. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais complètement dévasté, absorbé complètement par une peur panique. Mais ça, en pleine campagne, quoi. Des fêtes, quand on est ado, on fait des fêtes comme ça à la campagne avec les copains, dans une petite ferme comme ça, vous avez bu un coup de trop, puis vous sortez, puis à un moment, vous êtes dans la nuit, et puis comme vous avez un petit peu bu, d'un seul coup, la nuit entre en vous, vous la sentez. Il y a un son, par exemple. Les sons à la campagne, la nuit, c'est très particulier. Moi, ça me fascine. Et je sais, moi, ça me... Voilà, c'est quelque chose comme ça que je cherchais. Et d'essayer de restituer Mais j'avais essayé ça un petit peu avec des hommes dans quand les soldats vont dehors... comme ça, avec le fusil, dans la nuit. Qu'est-ce que c'est être dehors dans la nuit, tout seul, par exemple ?
Et puis, il y avait des scènes également d'en continuer, qui pouvaient être comme ça, de moments où tout à coup, la peur s'invitait, et la terreur également.
Mais là, c'est vrai que ça prend une
dimension,
plus...
Oui. Surtout que... Pardon, mais ce qui peut rassurer, justement, quand on est seul dans une maison perdue dans la campagne, c'est le chien. Le chien...
Oui. Oui. Sauf que là...
Ça a une... Voilà. Et là, il lui arrive quelque chose qui...
Ah, on dit rien.
Non, mais...
Suspense tient jusqu'à quasiment la dernière ligne. Ça m'embête parce que j'aurais beaucoup aimé parler de ce qui se passe dans les dernières pages, mais tant pis, j'en parlerai pas avec vous, en tout cas pas à l'antenne. Vous évoquez le rôle des artistes en parlant de Christine. Vous dites au tout début du livre, pour elle, les artistes sont là pour avoir des visions. Et vous précisez même, dans un monde où la brutalité et le mensonge sont la règle. Quelle vision avez-vous, vous, artiste ?
Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'écrire des livres, par exemple, c'est essayer de chercher cet endroit-là. Je me dis qu'en écrivant comme ça, en tournant autour, c'est peut-être pour ça aussi que les phrases ont tendance à s'étirer, etc., que peut-être de tout ça va surgir une vision de quelque chose. J'ai l'impression d'essayer de tourner autour de quelque chose, donc je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être qu'en travaillant comme ça, un peu obstinément et en y revenant, peut-être que quelque chose va surgir, mais qui serait quelque chose de positif, hein, pas forcément de noir, au contraire. J'ai cette espèce d'attente de l'écriture, qu'un jour, quelque chose me dira, et, comme si on me disait « ça y est, t'es arrivé ». Vous voyez, comme si...
Mais alors, ça serait fini, alors, ce jour-là ?
Ah, mais ça serait heureux. Ça serait heureux. Ça serait pas fini dans le sens terminé.
Non, ça serait fini d'écrire.
Ça serait fini d'écrire.
Ça serait fini d'écrire, oui, mais peut-être. Moi, j'aimerais bien être apaisé un jour. Ça serait pas mal.
Mais dans ce livre, il y a des pages absolument formidables sur la peinture. Ce que c'est que... Aussi. Voilà, la peinture que j'ai entendue, que j'ai lue, moi, comme des pages sur l'écriture aussi.
Oui, bien sûr. Bah, sur la question du repentir, par exemple. Oui. La question de comment... D'ailleurs, c'est dit à un moment.
Comment finir
la femme rouge, c'est ça.
Ben ah, oui. Ça c'est... Comment finir la femme rouge.
Ouais. Mais parce qu'il y a cette idée que on existe en fonction aussi de tout ce qui nous a construit.
Voilà.
Et dans la peinture, il y a ce truc de superposition de couches, etc. Et comment il faut toutes ces couches pour que l'image apparaisse. Mais s'il n'y a pas toutes ces couches, l'image ne peut pas apparaître. Même ces couches qu'on ne voit plus.
J'aimerais qu'on dise un mot, des mots. C'est toujours formidable quand dans un livre, vous apprenez des mots nouveaux. Tiens, page 47, par exemple, chez vous, Laurent Mauvigné, je ne le connaissais pas, moi, ce verbe que je découvre. Se racrapoter.
C'était sûr.
Oh, et formidable.
C'est le personnage, c'est Bergogne. Il a 47 ans et parfois, il pense en avoir deux fois plus. Il a l'impression que tout se recroqueville en lui, se racrapote.
Mais en fait, se racrapoter, c'est belge, en fait. Les Belges connaissent plus que les Français. Effectivement, en français, c'est se recroqueviller, en fait. Mais je trouve qu'il a... Je l'adore.
C'est pas mal, hein, ce racrapoté.
Je l'adore. Ouais.
Allez, on adopte racrapoté. Chez vous, Marie-Hélène, page 31, je découvre les gabatches. Qu'est-ce que c'est que les gabatches ?
Les sauvages de la montagne. C'est ça, les gabatches. C'est-à-dire ceux qui viennent d'ailleurs, de manière générale, et que vous avez tendance à considérer comme étant sommaires. Voilà.
Je crois qu'au départ, ça veut dire les gloîtreux. Et c'était le nom qu'on donnait à ceux qui venaient des Pyrénées.
Vous croyez que c'est le même mot ?
C'est pas le même mot, mais je crois que ça vient de là. C'est le mot qu'on utilise encore en espagnol pour dire, désigner les Français, vous voyez. Gabachos.
Mais c'est quand même les autres, hein.
Ouais. Ah oui, c'est tout ce qui est différent de nous.
Oui. Oui, c'est quand même les autres. Moi, j'ai aimé Térébrant.
Ah oui, Térébrant, on le trouve plus facilement.
Oui, mais c'est beau. Ouais.
Racrapoté, là, vous m'avez
dit. Oui, je suis d'accord.
Ça, quand même. Les gabatches, pas mal aussi. Mais alors, chez Joncourt, même chose. J'ai un truc formidable chez Serge Joncourt. Qu'est-ce que c'est qu'un fadorle ? Vous saviez ça, Laurent Mauvigné, un fadorle ?
Non, je ne savais pas.
C'est un peu moi.
Vous êtes un fadorle ?
Un peu, oui.
Je vais le garder, attention.
Je pense à Fada, hein. Fada,
oui,
c'est même ouais. Voilà,
un illuminé.
Un illuminé, oui. Le père Cressac.
Tout à fait. Qui a parfois peut-être raison. Enfin,
Alors le Fador, c'est pas seulement le Fada, c'est l'illuminé qui est peut-être un peu prophète, qui a peut-être un peu
de
bon sens paysan.
Mais ça, on le sait qu'après.
Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné, c'est aux éditions Minuit, c'est un très grand livre. Je voudrais signaler que l'adaptation d'un de vos précédents romans, Laurent Mauvigné, Des Hommes, paru il y a quoi, 10 ans maintenant, sortira au cinéma dans quelques jours, le 11 novembre prochain, avec au casting, excusez du peu, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin et Catherine Fraud. C'est un film de Lucas Bellevaux. Et puisque nous parlons de Catherine Fraud, qui interprète un de vos personnages et qui a généreusement accepté de faire le pré-générique de cette émission, je signale ce livre qu'elle préface et qui est très bon, Au bord du monde. C'est aux éditions Cohen et Cohen. C'est un livre qui accompagne le film à l'affiche duquel elle se trouve et qui s'intitule Sous les étoiles de Paris. Il sort mercredi prochain au cinéma. C'est l'histoire d'une SDF interprétée par Catherine Fraud qui rencontre un petit garçon de 8 ans et qu'elle va aider à retrouver sa mère. Voilà, on parlait de la maternité et de la paternité. La boucle est bouclée. On arrive à la fin de cette émission. Merci infiniment d'y avoir participé. Je voudrais vous dire, à vous qui nous regardez, un mot d'une opération qui est formidable. Elle s'appelle « Donner à lire ». J'ai la chance d'en être le parrain cette année. Alors, le principe est très simple. Allez, s'il vous plaît, en librairie. Choisissez, parmi vos achats, un livre pour les jeunes. Un livre jeunesse, par exemple, mais pas que. Rajoutez-le à vos achats. Et puis confiez-le à votre libraire. Ce livre sera ensuite donné à un enfant ou à un adolescent par les équipes du Secours Populaire. Donnez à lire, c'est une opération qui se tient jusqu'au 20 novembre près de chez vous. Et vous trouverez toutes les informations à l'adresse qui est en train de s'inscrire, www.librairiesindépendantes.com. Vous pouvez aller voir le site librairiesindépendantes.com, il est formidable. Et là aussi, vous pouvez commander à distance. Fin donc de cette émission, je vous remercie infiniment. Émission que vous pouvez voir et revoir en replay sur le site de France.tv, l'écouter en podcast sur la plateforme de votre choix. Et puis, vous pouvez maintenant vous connecter sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie et remporter les livres dont nous avons parlé ce soir. Dans un instant, la petite librairie. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine avec notamment Alice Zéniter, avec Eric Reinhardt, avec Rachid Benzine et avec Marc Lévy, pour parler d'Internet. À la semaine prochaine, belle lecture. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.